Voilà, donc comme vous le constatez dans la brochure, je m'appelle Daniel Costanza. Alors le nom sonne très italien, je suis d'origine italienne, mais né en Belgique. Voilà. Donc mes parents étaient missionnaires pendant 11 ans à Liège, c'est la ville où je suis né. Et donc peut-être parfois mon accent liégeois va refaire surface. On a du mal à effacer nos origines.
Ça se fait bien.
Voilà. Donc, mes parents ont quitté l'Italie il y a à peu près 44 ans. Et ils ont donc accepté de travailler par la foi parmi les immigrés. À l'époque, il y avait des centaines de milliers d'immigrés. Et donc, mon père a implanté des églises dans la région de Liège. Et au bout de 12 ans, ils sont partis en France. Donc mon deuxième pays, c'est la France. J'ai vécu 20 ans en France, dans une très belle région qui s'appelle l'Alsace. Vous connaissez ? Alors, ça m'a donné l'occasion non seulement de connaître la France, mais on était à la région frontalière, donc entre Bâle, qui est en Suisse, puis Weil, qui est en Allemagne, et une petite ville en France qui s'appelle Saint-Louis. Voilà. Alors, j'ai le privilège de vivre pendant 20 ans au croisement de trois pays. C'était très enrichissant puisque non seulement on a pu continuer notre travail missionnaire dans trois pays, mais ça m'a permis de côtoyer trois cultures différentes, aussi d'apprendre l'allemand. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi au départ de me lancer dans des études linguistiques. J'ai fait une maîtrise en langue à Strasbourg et pendant 8 ans, j'ai enseigné les langues dans plusieurs lycées de France. Notamment en Alsace. Et en même temps, donc, je suis impliqué dans le travail missionnaire de mes parents, et puis également dans les églises italiennes dont ils étaient membres. Donc, j'ai été fort actif dans le domaine de la jeunesse, activité d'évangélisation. J'ai beaucoup voyagé en Europe. J'ai établi beaucoup de contacts à droite et à gauche. Mais il y avait une chose qui était un peu différente chez moi, c'est que ayant vécu à côté de mes parents qui vivaient par la foi, donc sans aucun salaire, sans aucune garantie humaine, j'ai tout de suite développé une certaine résistance par rapport au travail à plein temps. Donc je dis, moi, je ne ferai pas comme mes parents qui vivent comme ça un peu par miracle. Dans notre famille, tous les jours, on priait pour les moindres choses. Le Seigneur, merci de nous pourvoir des chaises, merci de nous pourvoir une machine à laver, etc. Donc, en grandissant, on avait développé cette tendance à vouloir trouver des garanties sur le plan financier. Et alors, je me suis lancé tout de suite dans des études pour pouvoir trouver un travail. Et effectivement, au bout de ma maîtrise en langue, j'ai commencé à enseigner. Et j'ai essayé de refouler cet appel au ministère à plein temps. Pendant 8 ans, j'ai travaillé, j'ai passé de très belles années. Je conserve de très beaux souvenirs de mes années en tant que prof de langue. Et il est vrai que j'étais actif dans les églises dont mon père était le pasteur, dans le mouvement, etc. Mais je sais que dans mon cœur, il y avait un appel qui a en fait me préparé à autre chose. Entre-temps, du fait que j'enseignais les langues, je voyageais beaucoup, j'ai établi des contacts avec beaucoup d'amis au Canada. Là, c'est c'est Belgique, France, Allemagne, Suisse, voilà. Alors, le Canada a une place spéciale dans ma vie parce que, avant de m'y établir pour 9 ans, j'ai fait, je crois, 16 voyages au Canada. Donc, étant donné que j'étais prof, l'été, j'étais libre. Donc, j'avais 2 mois de vacances. Pendant 8 ans consécutifs, chaque été, j'étais au Canada. Alors, ce que je faisais, c'est que je me mettais à la disposition des églises qui m'invitaient et je travaillais comme si j'étais à plein temps, sauf que c'était pendant les vacances. Alors j'ai fait de tout, j'ai fait de la prédication, des visites dans les hôpitaux, radio, télé. Alors mon premier amour, c'était Montréal, bien sûr, la ville francophone, très belle ville. Et dans un premier temps, je croyais que j'allais m'établir à Montréal. Et d'ailleurs, c'est à Montréal que j'ai obtenu mes papiers, parce que vous savez qu'entre la France et le Québec, il y a une relation très étroite. Et donc tout francophone est le bienvenu au Québec. Je ne donne pas d'idées là, mais c'est comme ça. Et alors, je suis allé à l'ambassade de Paris et immédiatement, j'ai obtenu mes papiers en tant que professeur, interprète et aussi en tant que pasteur parce que j'avais accepté entre-temps de travailler à plein temps pour la première fois
dans une église à Montréal. Mais je vais vous expliquer comment j'ai abouti. Je vous dis tout ça parce que peut-être ça peut être une inspiration pour quelqu'un qui se trouve peut-être dans une phase de décision, de réflexion. C'est important de prier, de prier beaucoup avant de faire certaines décisions. Je me souviens qu'un jour j'étais dans une salle de classe comme celle-ci, un peu plus grand peut-être, dans un lycée. Et c'est la première fois où le Seigneur m'a clairement dit, ton temps ici est fini. Je peux trouver d'autres profs qui peuvent enseigner les langues, mais j'ai besoin de toi ailleurs. C'était la première fois où le Seigneur a éliminé cette peur de me lancer dans un travail à plein temps. Et alors, suite à cette expérience, j'ai eu le courage de dire oui pour la première fois aux invitations qui venaient du Canada. Alors, ça, c'était en 80, ici en Belgique, c'est 97, juste comme ça. Non, 87, excusez-moi. Mais le jour où je vais partir, quelque chose m'a freiné. Alors je dis ça parce que lorsque vous prenez vos décisions dans l'œuvre de Dieu, il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Non seulement l'aspect spirituel de votre travail, mais aussi l'aspect pratique de votre vie. Vous savez, j'étais très jeune, donc j'étais plein de zèle, plein d'enthousiasme. Mais le Seigneur a réussi à me faire comprendre, oui, je t'appelle à quitter tes fonctions, quitter ton travail séculier, mais il y a une chose qui te manque, c'est une femme. Il faut que tu te maries d'abord. Parce que le travail que je vais te confier au Canada va être tel que tu auras besoin du soutien moral et pratique de ta femme. Moi, je n'étais pas marié. Le Seigneur, ok, mais on passe marié comme ça de but en blanc. Et alors, voilà, j'ai dû mettre mon permis de séjour dans un tiroir et attendre. Alors, combien d'entre vous ont appris qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut attendre dans l'œuvre de Dieu? Ça ne se passe pas comme ça. Il faut attendre, être patient. Entre-temps, les postes auxquels j'ai dit non à Montréal ont été pourvus. Donc, pour moi, c'était fini. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends plus, c'est fou tout ça. Tu me dis de quitter le travail. Après, je ne suis pas prêt parce que je ne suis pas marié. Donc, il y a eu une période d'attente. Mais entre-temps, j'ai continué mon travail. Et là aussi, le Seigneur m'a appris une leçon. C'est qu'il faut être fidèle là où on est, en attendant autre chose. Hein? Quand on ne sait pas quelle est la prochaine étape, il faut rester fidèle là où on est. Puis le Seigneur aplanira le chemin. Voilà, et tout à coup, en 94, donc ça fait maintenant 11 ans, j'ai rencontré mon épouse, à qui j'ai immédiatement dit, écoute, je ne vais pas te cacher que me dire oui, ça veut dire aussi le Canada. Je ne sais pas où, puisque j'avais dit non à Montréal, mais je savais que le Seigneur allait utiliser d'autres circonstances. Et je savais que c'était un passage inévitable pour ma croissance spirituelle et d'autres expériences. Et à ma grande surprise, elle a dit, oui d'accord, pas de problème, je prierai là-dessus, et puis on en reparle. Et donc en 95, ça fait exactement 10 ans, on s'est mariés. Et voyage de noces, où cette fois, c'était Toronto. Voilà. Vous voyez, le Seigneur, peut-être mon prochain cours sera la direction de Dieu dans la vie du croyant. Parce que j'ai fait, je continue à faire des expériences dans ce domaine qui sont incroyables. Parce qu'un des pasteurs à qui j'avais dit dans Montréal, entre-temps, s'est implanté à Toronto. Et Toronto n'était pas du tout une ville qui m'attirait. Mais, de par cette invitation, tu seras le premier. Voilà, je suis parti. Et alors, on a fait notre voyage de noces à Toronto. La ville nous a plu énormément. Ce n'est pas une ville francophone, comme vous le savez, c'est entièrement anglophone. C'est la ville la plus américaine. Est-ce que quelqu'un connaît Toronto? Je vous encourage à visiter. C'est une ville formidable. On y vit très bien et une ville qui offre beaucoup. Voilà. Et on est parti. Pardon?
On doit connaître l'anglais.
Oui. Mais avec le français, on s'en sort aussi. Parce que, bon, officiellement, le Canada est un pays bilingue. Donc, avec le français, on s'en sort. Mais préférablement avec l'anglais, oui. Et donc, on est parti. C'était un moment difficile parce que j'ai dû quitter mes fonctions. Donc, j'avais accumulé une certaine, comment on dit, ancienneté. Alors, mes collègues m'ont dit, mais toi, ça ne va pas ici. Il y a une case qui te manque. Hein. Après 8 ans d'expérience, tu abandonnes tout ça. Mais bon, ils ne pouvaient pas comprendre. On a quitté notre famille, on a quitté nos amis, tout ça. On a commencé à zéro. Et bon, c'est une autre culture, un autre milieu, etc. Et pendant 2 ans, j'étais co-pasteur d'une église à peu près 600 membres dans le centre de Toronto. Donc, c'était vraiment un changement radical au niveau de la langue. Déjà, il fallait que je prêche en anglais. Et aussi en italien, parce qu'il y avait aussi des activités en italien. Mais ce n'était plus l'activité principale. C'était une église multilingue. Autre surprise, 2 ans après, cette église de 600 membres a implanté une nouvelle église à peu près 50 km au nord de Toronto. Alors cette nouvelle église avait besoin d'un pasteur. Et alors on nous a demandé de prendre la responsabilité. On n'était pas du tout préparé à cela. Mais Dieu avait estimé que c'était le moment de se lancer dans cette nouvelle phase. Et voilà, après 2 ans donc, de travail en tant que co-pasteur, nous avons établi cette église qu'on a appelée l'église Bethel. Et c'est là que le Seigneur a permis qu'on reste à peu près 8 ans. On a pu faire un certain travail d'organisation, puisque c'était une église naissante, donc on a pu structurer l'église dans les différents secteurs, jeunesse, école du dimanche, femmes, évangélisation, etc. Et donc on a vécu de belles choses, dans un climat tout à fait favorable. Vous savez que Toronto est une ville très évangélique, compte environ 900 églises évangéliques. Donc il y a moyen de travailler, oui. Plus dans un climat de collaboration fraternelle, etc. On a vécu de belles choses. Et donc avant de partir, on a eu la joie de confier l'église à un nouveau pasteur. Donc ça fait maintenant 4 mois. Et l'église compte environ 120 membres. Donc on a commencé avec une vingtaine. Et après 8 ans, on a pu voir cette liste de membres s'agrandir. Seigneur nous a vraiment bénis. Et au travers de ces 8 années, j'ai aussi le plaisir de travailler dans le domaine de l'évangélisation par la télévision. Donc j'ai animé une émission qui touchait le Canada et aussi l'Italie. Et au mois de mars, l'année dernière, on a arrêté parce que tout à coup, les stations, les prix en fait, les coûts de production et de mise et d'émission ont tellement augmenté que c'était impossible de continuer. Donc là aussi, le Seigneur m'a montré, voilà, c'est une autre phase qui se termine. Et puis j'étais aussi responsable d'une revue chrétienne, donc comme vous pouvez remarquer, je ne me suis pas ennuyé. Ma femme aussi était très impliquée dans le ministère au niveau de la musique, au niveau des femmes. Alors, qu'est-ce qui nous a ramené en Europe? Voilà. Personne n'aurait cru que je serais revenu, parce que ceux qui sont venus me voir savent combien je m'étais bien implanté au Canada. Toronto est vraiment la ville de mes rêves. Elle me manque beaucoup, je ne vais pas le cacher. Mais il y a un projet qui a retenu notre attention, et j'aurai l'occasion de vous en parler dans le cadre de ce cours, puisque ça touche l'ensemble du mouvement pentecôtiste européen. Alors c'est un projet qui est sous l'égide d'une organisation qui s'appelle la PEF. On en reparlera, mais tout simplement maintenant, je vais vous dire que ça veut dire la fédération, plus précisément la communion pentecôtiste européenne. Alors c'est une sorte de réseau, de network. Il y en a qui comprennent l'anglais ici? Et quelquefois je ferai allusion à des termes anglais qui ne sont pas facilement traduisibles en français. Et chaque langue a ses nuances. Voilà. Donc en anglais c'est fellowship, ça veut dire communion, c'est un réseau, et qui inclut 40 mouvements pentecôtistes répandus en Europe. Et l'Europe pour moi c'était fini, je revenais toutes les années, on a de la famille, on a des amis, etc. Je venais prêcher dans les églises à droite et à gauche, mais au niveau du ministère à temps plein, j'ai dit non, l'Europe c'est pas pour moi. Vous savez que c'est bien plus difficile en Europe de travailler à temps plein. Jusqu'au jour où, par hasard, j'ai reçu une communication concernant un projet nouveau que la PEF mettait en route. Et je l'ai lu parce que je suis très curieux par nature. Je lis beaucoup. Et puis, comme j'étais rédacteur d'une revue, j'intégrais des nouvelles dans notre revue. Et alors, cette nouvelle m'a vraiment étonné, puisque c'était la première fois qu'il s'agissait de l'ouverture. Donc je connaissais la PEF depuis que j'étais enfant, et la PEF à l'époque ne faisait que organiser des conférences au niveau européen tous les 3 ans. Mais cette fois, il était question d'ouvrir un siège. Un siège central pour l'Europe. Et ce siège avait trois objectifs. Le premier, fortifier l'union de ces 40 mouvements, à l'heure où on parle de la nouvelle Europe, l'Europe politique, économique, donc maintenant l'Europe au niveau spirituel. Ça m'a un peu étonné. Donc, une plus grande union et collaboration entre les 40 mouvements qui en font partie. Deuxièmement, il était question d'un contact officiel entre la PEF et le Parlement européen, puisque le Parlement européen a constitué une commission religieuse qui permet à chaque confession religieuse d'être représentée pour la protection de nos droits, pour mieux affirmer nos valeurs chrétiennes, etc. Je dis, c'est intéressant. Et puis, c'est le troisième point qui m'a surtout attiré, c'est le désir de lancer des initiatives d'évangélisation dans les villes principales d'Europe. Alors, j'étais vraiment intéressé, j'y tiens. L'Europe commence à bouger. J'avais une image assez négative de l'Europe avant de partir, parce que bon, j'ai travaillé ici pendant pas mal d'années. Et là, j'y tiens, c'est intéressant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai publié la nouvelle. Et puis, j'ai envoyé simplement un mail au responsable. Je leur ai dit, ben, félicitations, que Dieu vous bénisse. Je me réjouis, je prierai pour vous. Voilà. Alors attention quand vous envoyez des mails, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Ce frère qui reçoit mon mail, qui était un mail simplement de un petit bonjour, quoi. Il m'avoue, ben écoute, à ton insu, j'ai partagé ton mail avec le comité européen de la paix. Moi, je ne le connaissais même pas. Mais parmi ce comité, parmi ses frères, il y avait un pasteur qui me connaissait depuis que je suis enfant. Il est clair, en tant que fils de pasteur missionnaire, les contacts n'ont pas manqué. Hein. Et ce pasteur italien qui dit, ah non, moi je connais Daniel. Justement, à mon insu toujours, durant cette réunion, il parlait du fait que pour ouvrir ce siège, il leur fallait quelqu'un à temps plein pour s'en occuper. Et ce frère dit, mais écoutez, ce frère qui vient de vous écrire, à mon sens, serait un bon candidat. Tout ça, on en suit. Hein. Donc imaginez, deux semaines après, quand je reçois une lettre du président de la PEF qui me dit, écoute frère, le comité te propose d'envisager d'accepter ce poste. J'étais électrocuté, je dis, de quoi vous parlez là. Bon, pour aboutir à la conclusion, ça nous a pris 8 mois pour aboutir à la décision, parce que c'est vraiment difficile de quitter le Canada, l'Église en particulier. Alors, dernier miracle en date, quand j'ai vu vraiment la persistance, ses frères étaient derrière moi, il faut que tu pries. Ne nous dis pas non sans nous dire que tu as prié. Alors, effectivement, je n'avais pas prié. Alors, je ne voulais pas être malhonnête, j'ai dit c'est vrai, je n'ai pas prié. J'ai dit non, mais je n'ai pas prié. Alors, je vais prier maintenant. Alors, si quand on prie, Dieu peut changer les choses, hein, et nos cœurs surtout. Alors on a prié pendant 6 mois, rien. C'était toujours négatif, négatif, négatif. Et en plus, vous savez, c'était l'année où on commençait à récolter vraiment des fruits. Vous savez, après 7 ans de travail à fond, cette année, c'était l'année où on commençait à se reposer. Waouh, super, enfin, ça marche. Les activités étaient bien en route. Et maintenant que nous étions en train de jouir de ces résultats, voilà, Dieu nous place devant ce défi. C'était dur, bien sûr, très dur. Alors on a dit, Seigneur, si c'est de ta part, cette coïncidence, cette ouverture attendue, alors on va te demander simplement de pourvoir immédiatement un remplaçant en tant que pasteur. Parce qu'on ne veut pas quitter l'Église sans que l'Église puisse avoir immédiatement une personne qualifiée qui puisse prendre les rênes. Vous savez, c'est important, les transitions. J'ai vécu des transitions très douloureuses dont les églises ne se sont jamais plus remises. Alors je tenais à tout prix à ce que si départ il devait y avoir, ça devait se faire dans les meilleures conditions. Et bien le Seigneur prend au sérieux nos prières. La semaine où j'ai annoncé que j'avais l'intention de partir, il y a un frère qui, de Montréal, lui aussi était dans une phase de transition. Et il me dit, écoute, je pourrais venir, mais pour 4 mois. Je dis, tiens, Seigneur, c'est bien d'avoir quelqu'un, mais 4 mois, c'est court. De même pas le temps de connaître l'église, de voir partir. Je passe beaucoup de détails parce que je veux entendre un peu votre nom, vos histoires, etc. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est pas ton église, c'est mon église. Je vais m'en occuper. Il faut faire confiance au Seigneur. Alors je dis, ok, tu viens pour 4 mois. L'église a accepté ma proposition. Je leur ai dit, voilà, il est ici pour 4 mois, mais moi, vous aurez quelqu'un. L'église était sous choc, ils n'arrivaient pas à s'en remettre. Mais bon. Ils ont compris que c'était pour un projet missionnaire. Mais le dernier miracle, le plus grand, c'est que le jour où j'ai annoncé qu'on avait un remplaçant, vous voyez, Seigneur, il nous honore un pas à la fois. Ce n'est pas ce qu'il en est chez vous, mais moi, j'ai tendance à vouloir savoir ce qui va se passer déjà en février 2007. Ça, c'est moi. J'ai besoin de savoir à l'avance. Mais Dieu, il nous donne la lumière qui est suffisante un jour à la fois. Et ça, j'ai du mal à accepter. Moi, j'aimerais savoir ce qui va se passer dans 6 mois. Le jour où j'ai annoncé que Dieu avait pourvu un pasteur intérimaire, hein, il y a un autre pasteur qui se manifeste, un ami. Alors là aussi, j'aimerais vous dire que rien ne se passe par hasard dans votre vie. Même les circonstances les plus bizarres, les plus inattendues, elles servent à quelque chose. Car ce pasteur qui m'a contacté et qui était disponible, en fait, je l'avais connu il y a 20 ans et on s'était perdu de vue. Et il apprend que je pars. Il me dit, Daniel, écoute, est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être moyen pour que je vienne? Et je me suis souvenu qu'il y a 20 ans, c'était lui qui m'avait parlé avec tellement d'enthousiasme de vivre au Canada. Mais entre-temps, c'est moi qui suis parti, c'est lui qui est resté ici. Il habite en Hollande. Et quand il m'a téléphoné, je dis à ma femme, je te parie que c'est quelqu'un qui va venir nous remplacer, et pour de bon. Et en effet, il avait le profil parfait du candidat que l'église recherchait. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas téléphoné un peu plus tôt? J'aurais évité de faire venir notre copain de Montréal. Il m'a dit, mais non, Seigneur, ne te trompe pas, parce que au mois de septembre, moi, je ne suis pas prêt. Je ne serai prêt qu'au mois de janvier. Ce qui fait que mon ami de Montréal nous a remplacé. Nous, on est parti le 31 août. Le 1er septembre, l'église avait déjà un remplaçant. Le 31 décembre, il est parti sur Montréal. Le 1er janvier, notre ami de Hollande était en poste à Toronto. Alors, ça a été une histoire vraiment formidable. On est soulagé parce que l'église, bien sûr, est triste parce qu'on est parti, nous aussi. Bien sûr, on est triste. On a eu... C'était la seule famille qu'on avait au Canada, donc on s'est fort attaché. Mais de voir comment le Seigneur a dirigé les choses, ça nous a vraiment fait du bien. Et tout cela pour vous dire que Dieu prend soin de son œuvre. Et si on est fidèle, il manifeste sa fidélité. Voilà.